Tempo Classique sur RCN, Dominique Bréda.
Bonsoir à tous, je suis très heureux d'accueillir ce soir Mathieu Dussoulier, le directeur général de l'Opéra National de Lorraine, qui vient nous présenter la nouvelle saison de cette grande et belle maison qui, depuis plusieurs années maintenant, s'ouvre à des activités nouvelles qui permettent de toucher un public de plus en plus large, du bébé au senior. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Alors je le disais en introduction, avec tout ce que vous proposez à Nancy, on peut passer sa vie à l'opéra.
Oui, c'est vrai qu'on a un programme intense, chargé, mais diversifié aussi. Et donc il y en a pour tout le monde, ça c'est déjà la première des priorités. Et puis, quelles que soient les formes, elles sont pensées pour le plus grand nombre et surtout pour accueillir. Le plus grand nombre. Voilà, et c'est vraiment une priorité que cette maison soit ouverte, qu'elle soit accueillante, que ce soit pour les artistes comme pour le public.
Et les publics sont au cœur de votre projet artistique ?
Absolument. C'est comme ça qu'on pense des formes artistiques spécifiques pour les publics. Quand on pense à Opéra Berceau, par exemple, pour les bébés, quand on va penser à un spectacle pour les 10-12 ans au moment d'Halloween, quand évidemment on va penser pour les mélomanes des formes avec, je veux dire, comme à l'exemple, à l'instar d'Héroïne que nous présentons à la rentrée, qui est à la fois une proposition qui fait place à la musique du XXe siècle et à des découvertes, à des curiosités, et en même temps une proposition où on peut voir trois opéras en une soirée, découvrir, être curieux et surtout avoir un concept dramaturgique dans lequel chacun et chacune peut se retrouver.
Voilà, alors on détaillera tout ça. Alors je propose une première pause musicale avec une artiste qui s'est déjà produite il y a quelques jours lors du concert d'ouverture de l'orchestre de l'Opéra. C'est la harpiste Alexandra Bidi qui a soulevé littéralement la salle Poirel comme rarement je l'avais vue. La voici seule maintenant dans deux extraits d'une transcription pour harpe de la cinquième partita pour clavier BWV 829 de Jean-Sébastien Bach. Nous entendons successivement Allemande et Sarabande. Thank you. C'était donc Alexandra Bidi, la harpiste, dans cet extrait de la cinquième partita pour clavier, adaptée à la harpe évidemment, de Jean-Sébastien Bach. Alors Mathieu Dussoulier, le maître mot de cette saison, c'est la transgression, mais une transgression positive et créatrice. Vous pouvez nous expliquer tout ça ?
Alors, je dirais presque que art et transgression, c'est un pléonasme en fait. Hein. L'art est là pour transgresser, pour repousser des frontières. La transgression, c'est un geste avant tout, on parle souvent en art de geste artistique. Donc en fait, dédier cette saison à la transgression, c'est assez naturel. Et j'ai voulu qu'on l'appelle comme ça parce que au cours de cette saison, il y a un certain nombre d'œuvres, de créations déjà, qui ont pour vocation de changer les frontières de l'opéra. Je pense notamment à L'avenir nous le dira avec la compositrice Diana Sow. Je pense aussi à Les Incrédules, le Nancy Opera Experience, la troisième expérience qui donc aura lieu en juin. Et puis, transgression aussi en matière de dans l'histoire de la musique. Si on revient encore sur la Sancta Susanna d'Hindemith ou le Château de Barbe Bleue de Bartok, ou même la Danse des Morts d'Honegger, qui ouvre donc notre saison lyrique, on est sur des œuvres qui ont transgressé, qui ont poussé les frontières à un moment donné de l'histoire de l'opéra. Et donc, en fait, transgression cette saison, c'est toute notre volonté de montrer à quel point on peut faire des changements, que ce soit formel ou dans le fond, à l'opéra, avec soit les livrets, soit la manière d'écrire la musique, soit la manière d'écrire les formes, soit même les manières d'aborder des événements organisés pour les étudiants ou pour les bébés, comme on en parlait tout à l'heure de l'opéra berceau. Voilà, c'est ça le thème et l'idée, le fil rouge de la saison 2024-2025.
Oui, c'est une forme d'ouverture plus, quoi.
Ouverture plus et volonté de montrer que l'opéra n'est pas figé. Je crois que c'est vraiment ça, encore je dis, lié à la transgression, l'idée de repousser des frontières, les rendre mobiles, ça veut dire qu'encore une fois, l'opéra reste vivant. Et ça, c'est l'idée la plus forte qui nous habite, c'est de démontrer que l'opéra a une vivacité et une énergie de vie qui n'est pas encore éteinte.
Eh ben de l'opéra, on va en écouter un petit peu avec un extrait de L'élixir d'amour de Gaetano Donizetti.
Oh!
C'était Una furtiva lacrima, extrait de l'Élixir d'amour de Gaetano Donizetti, Vittorio Grigolo, l'orchestre de l'Opéra de Paris, dirigé par Riccardo Frizza. Alors, l'Opéra National de Lorraine, Mathieu Dussouillet, c'est également une scène qui défend la création contemporaine. On a évoqué les deux choses qui seront dans cette optique-là, l'avenir nous le dira, et puis les incrédules. Vous pouvez nous parler un petit peu plus précisément de ces choses-là et de votre idée générale concernant la création contemporaine ?
Alors on commencera donc avec la création « L'avenir nous le dira », c'est une coproduction avec l'Opéra National de Lyon. Et ce spectacle donc, a été co-commandé par l'Opéra de Nancy et l'Opéra de Lyon à la compositrice Diana So, à la librettiste Emmanuelle Destremo et à la créatrice metteuse en scène Alice Laloy. Trois créatrices avec un talent et une notoriété internationale. Et l'idée, c'est de partir de la maîtrise de l'Opéra de Lyon, qui est donc un chœur d'enfants, qui va donc se retrouver, un peu comme à la manière de Sa Majesté des Mouches de Golding ou Deux mois de vacances de Jules Verne, seul dans un espace sans adultes. Le topo de l'opéra, c'est de savoir effectivement quelle société ils vont inventer sans les adultes. Est-ce qu'elle sera, comme dans Sa Majesté des Mouches de Golding, une société presque plus cruelle que la société des adultes, ou est-ce que ce sera une société positive qui pense à l'avenir et notamment à la question écologique? Voilà les réponses à découvrir au mois d'avril. Mais ce qui est sûr, c'est que l'invention de Diana So et de Alice Laloy, c'est d'écrire pour ce cœur d'enfant avec un instrumentarium qui ne sont que des éléments scénographiques. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'instruments en fosse, il n'y aura que des machines que les enfants vont actionner sur scène, des machines à vent, des machines à tambour, tout un tas d'objets constitueront un espace de jeu, un espace instrumental. Voilà, donc ça, c'est la première création.
Alors, ces enfants, ils viennent d'où ?
Alors, ils viennent de la maîtrise de l'Opéra de Lyon, donc ce seront le cœur maîtrisien de la maîtrise, puisqu'ils ont une maîtrise constituée au sein même de l'Opéra et que c'est eux qui créeront le spectacle. Donc, c'est une invitation de l'Opéra de Lorraine à la maîtrise de l'Opéra de Lyon, en plus d'être coproducteur. Et oui, ça va donner une vraie singularité La création lyrique, parce que créer pour cœur d'enfant, ça a déjà été fait évidemment, mais c'est pas si répandu que ça. Et puis par ailleurs, il y aura des rôles solistes évidemment. Et puis par ailleurs, créer pour un cœur d'enfant qui est lui-même musicien en instrument, en actionnant les machines et d'une partition écrite par une compositrice, hein, je veux dire, ça reste quelque chose d'écrit, c'est pas de l'improvisation ou du jeu, voilà, il y aura sans doute des parts d'improvisation, mais ça reste quand même quelque chose de très, oui, de très écrit, et ça promet d'être passionnant.
Et puis alors la deuxième chose dans ce créneau de la création contemporaine, c'est les incrédules.
Tout à fait, les incrédules, c'est l'idée d'un collectif réuni autour de Samuel Achache, qui est metteur en scène et musicien. Je l'ai passé commande dans le cadre du Nancy Opera Experience. Ça fait maintenant, on en est à la troisième expérience lyrique de création. Et ils ont voulu travailler à partir de témoignages de gens rencontrés à Nancy, mais aussi en Italie, à Naples, à Paris, à Avignon, avec une question simple: qu'est-ce que c'est que le miracle pour vous? Sachant qu'aujourd'hui, les miracles, on les explique assez facilement grâce à la science, à l'évolution de la science, mais reste quand même dans chacun de nous une définition du miracle qui nous est plus intime et qui est réelle et vivante. Et donc, ils vont partir de ça pour écrire une partition à partir de témoignages qui vont constituer le livret. Et puis la musique s'écrit autour de ces voix. Ils ont inventé un instrument qui s'appelle le miraclophone, qui est un instrument qui a été construit par nos ateliers techniques, qui est un instrument à la croisée du pendule de Newton, de l'harpe, du piano et de la percussion. Ce sera utilisé dans l'opéra, évidemment pour prédire le miracle peut-être, je n'en dévoile pas plus, d'ailleurs j'en sais pas beaucoup plus sur le fond du livret qu'ils sont en train d'écrire, mais ça va être un spectacle de création joyeux, intime, poétique. Loin peut-être aussi des clichés que se sont faits de la musique contemporaine, de musique d'initié, etc. Là, ça ne sera pas du tout ça. Ça sera quelque chose de très universel, je pense, et de très doux, et de très profond aussi, parce que cette question du miracle, on s'aperçoit qu'elle va puiser des choses d'énergie vivante qu'on a en nous, et quelque part qui se loge peut-être à l'endroit de l'espoir aussi. Je pense que ça va être un très très beau moment.
Eh bien écoutez, pour illustrer tout cela, je propose une miniature de Diana Sow. Thank you. C'était une miniature de Diana So.
Tempo classique sur RCN, Dominique Breda.
Alors, toujours dans l'idée de la transgression, Mathieu Dussoulier, cette transgression est également sociale, notamment autour de deux opéras, la Cenerentola et puis Eugène Onegin.
Absolument, c'est typiquement là pour le coup, on est on n'est pas forcément dans une transgression formelle, on n'est pas dans une transgression de compositeur, mais là on est dans des livrets qui abordent des questions transgressives, notamment sociales. Vous avez raison, avec Angelina dans la Cenerentola, qui n'est autre que Cendrillon, qui finit par épouser un prince alors qu'à la base sa condition sociale ne le permet pas. Et donc évidemment, il y a aussi tout le jeu autour du déguisement dans cette Angelina où le prince se déguise en son valet et vice-versa. Donc voilà, il y a une forme là de transgression sociale amusante. Le metteur en scène aussi sera dans le geste transgressif puisqu'il a annoncé qu'il placerait son spectacle, sa version de Cenerentola, dans un univers à la Tim Burton, un peu à l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc évidemment, ça sera complètement déconnecté, mais en même temps amusant, mais complètement déconnecté de l'image qu'on peut se faire de Cendrillon version Disney, évidemment. Onegin, alors là on est dans des transgressions multiples, on est dans cette attitude de Onegin qui désinvolte, désintéressé, un peu blasé, qui finalement finit par créer son propre malheur. Onegin, c'est l'échec. Tatiana, elle qui aime Onegin, elle l'aime aussi parce qu'il peut lui apporter une condition sociale, une condition d'exil aussi de son village ennuyant, et Onegin la rejette. Dans l'histoire, il fait le geste transgressif ultime aussi, puisqu'il tue son ami Lenski pour des sombres histoires de duel, etc. Et puis, in fine, alors que Tatiana a réussi à s'émanciper en épousant un prince, il retourne la voir pour finalement lui dire qu'il l'aime. Il y a une forme, il y a une volonté forcément de déplacement de la constitution sociale, il y a une volonté aussi de. Chez Tchaïkovski, de comme ça adresser une série de désillusions et une magnifique trajectoire de l'échec, je trouve, pour Onegin, même si évidemment c'est triste, mais en même temps c'est sublime parce que tous les sentiments de la musique sont derrière et sont très, très porteurs.
Bien, écoutez, on va écouter un petit peu de la Cenerentola de Rossini dans une production de l'Opéra de Paris, le chœur de l'acte 1, Ophélie Amabili.
Sposa carissima, e lui sarà, sposa carissima.
C'était le chœur de l'acte 1 de la Cenerentola de Rossini, Ophélie Amabili. Alors j'évoquais en introduction à notre entretien le fait que le public était au cœur de du projet artistique avec le projet Opéra Citoyen 2025. Que recouvre cette notion d'opéra citoyen ?
Alors c'est une notion qui est issue quelque part de notre analyse des droits culturels, c'est-à-dire que un opéra à Nancy, ancré dans son territoire, c'est un opéra qui doit et un opéra passionné aussi, c'est un opéra qui doit s'exporter ou se déplacer auprès de toutes et tous, et notamment de ceux qui peuvent pas, pour des raisons que ce soit sociales, économiques ou physiques, venir à l'opéra. On a cette responsabilité en tant que service public de la culture et de la musique d'aller au contact des gens. Et cet Opéra Citoyen 2025, c'est ça. C'est la volonté chevillée au corps d'aller au plus proche des gens, que ce soit à l'hôpital, dans les services de maternité et de réanimation néonatale pour aider à renouer le contact entre un bébé qui vient de naître prématuré et sa maman, que ce soit dans les collèges en grande ruralité avec des enfants qui n'ont pas eu d'éducation musicale particulière et travailler avec eux pendant 2 ans pour monter un spectacle. C'est l'exemple de Brundibar au mois de décembre. C'est quand on va créer un spectacle qu'on est en train d'écrire d'ailleurs avec la metteuse en scène Noémie Ksikova, avec les patients du centre psychiatrique de Nancy à l'AXOU. Voilà, c'est chaque année de multiples projets qu'on dit d'éducation artistique et culturelle, des projets participatifs et créatifs qui impliquent des personnes qui naturellement ne se déplacent pas à l'opéra, mais qui font quand même partie de notre public et de ceux qu'on a envie de toucher avec la passion qui nous anime.
Et alors pour tous ces projets, vous avez des personnels qualifiés, je suppose ?
Absolument, on a un service, on a même une direction qui s'appelle la direction du projet citoyen, dans laquelle il y a plusieurs missions, mais dans ces missions, il y a l'éducation artistique et culturelle avec des personnes spécialisées en médiation, spécialisées en développement de projets, avec un chef de chœur associé qui est spécialiste aussi de la transmission à des artistes non professionnels, à des amateurs de la voix, qui a une énergie débordante. Et tout ce groupe, moi, quand je suis arrivé, il y avait un poste à mi-temps. Aujourd'hui, il y a 5 personnes qui travaillent à temps plein.
Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a la maîtrise populaire de Bayon, l'école de Bayon, c'est ça ?
Alors, on a une maîtrise populaire, une maîtrise citoyenne itinérante, en fait, qui s'installe dans différents, depuis quelques années, dans différents endroits du département et de la région. Donc effectivement là Brundibar c'est avec le collège de Bayon, mais la prochaine fois ce sera avec un autre collège. L'idée c'est en tout cas de travailler à essaimer cette idée maîtrisienne sur le territoire Et maintenant, avec les années, on repère, on est en train de structurer ce projet, évidemment, et surtout, on repère qu'il y a des enfants qu'il faudrait pouvoir prendre en charge et accompagner plus loin. Et donc, évidemment, on a bon espoir que d'ici une dizaine d'années, cette maîtrise citoyenne aura une vraie structuration qui pourra prendre en charge ces enfants qu'on repérera dans les collèges.
D'accord. On ne peut pas évoquer la saison à venir sans parler des concerts symphoniques que donne l'orchestre. Il y a combien de concerts? Comment vous élaborez les programmes? Quel est l'avenir de la direction artistique avec le départ annoncé de Martin Gardelinska?
Ben, c'est un projet de symphonie. Alors, déjà, un projet lyrique, ça passe par un projet d'orchestre, puisque dans un opéra, il y a l'orchestre dans la fosse. Donc, il faut donner, j'ai envie de dire, de la nourriture artistique à notre orchestre. Ça passe par soigner des programmes, trouver les meilleurs artistes invités, faire des programmes intéressants qui permettent à la fois de faire venir du public, mais aussi de ne pas faire toujours les mêmes choses, parce que les musiciens, sinon, ils ont besoin de nouveautés, de défricher des répertoires, des partitions. Donc ça, c'est un équilibre de programmation. Après, sur les directions musicales, c'est pareil. Les directions musicales, ça tourne, notamment quand on a des gens talentueux. Ils sont là pour une durée déterminée. Et donc, ça se construit de voir, de se projeter dans la suite, de penser loin en amont. C'est pour ça que voilà, j'ai une politique de chef invité aussi, que ce soit à l'opéra comme au symphonique. Que dans cette politique du chef invité, je propose des noms à l'orchestre, des profils, et puis en fonction des feedbacks, de l'évaluation aussi, qui peut, enfin, en tout cas des discussions qu'on peut avoir en interne sur les invitations, eh bien, je repère potentiellement la succession ou pas, d'ailleurs, de notre directrice musicale qui s'en va effectivement en décembre 25.
Et là, vous avez déjà repéré un peu, je crois, non?
J'ai une première, oui, j'en ai en tout cas une première. Enfin, on a plusieurs pistes, mais il y en a une effectivement qui, pour l'instant, tient un peu, j'ai envie de dire une position favorable, même si encore une fois, on est encore dans la prospection. Hein, mais on a un premier chef invité qui s'appelle Giulio Cilona depuis cette saison, et une place de premier chef invité, évidemment. Est une position favorable pour passer l'étape suivante. Mais ce n'est pas automatique, ça doit se confirmer aussi dans le travail de ces prochains mois, notamment parce qu'il va venir faire une série symphonique et un opéra, et qu'il peut se passer plein de choses dans cette période-là.
Voilà, alors on a vu la saison actuelle, les projets. On peut parler un peu de la saison passée. Vous en êtes contente cette saison? Il y a eu du monde?
Oui, très 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 content. Aujourd'hui, j'ai le sentiment déjà Alors évidemment, les choses ont changé après Covid vis-à-vis des habitudes des spectateurs, des attentes aussi, mais quand même, on a retrouvé une saison avec un vrai appétit, avec une vraie présence, avec un public aussi qui bouge. On garde nos abonnés, nos public fidèle, les gens qui sont attachés à l'opéra depuis des années, qui viennent et qui sont toujours les bienvenus, et je réinsiste toujours là-dessus, mais aussi on voit de nouvelles personnes s'intéresser par le biais des autres formes qu'on développe et qui, à un moment donné, amènent peut-être un spectateur qui viendrait pour la première fois à l'Opéra Berceau acheter une place après pour venir voir une forme plus traditionnelle. Voilà, donc ça, c'est les fruits d'année à d'année de travail et qui vont se continuer, qui apportent effectivement cette diversification des publics.
Et concernant l'orchestre, il se produit essentiellement en salle Poirel et puis dans la fosse de l'Opéra, mais on le retrouve également ailleurs.
L'orchestre, on le retrouve, oui, sur le territoire, à Fénétrange, dans le festival de Fénétrange chaque année, au concours international de Mirecourt. On les retrouve aussi dans des tournées dans orchestre à l'école, par exemple, en plus petite formation, où ils vont jouer dans les réfectoires, dans les salles de polyvalentes d'établissements scolaires. Ils peuvent être dans différents formats. Donc, on essaye en tout cas de les multiplier, et on retrouve aussi beaucoup l'orchestre dans les tournées lyriques que nous pouvons organiser à Luxembourg, à Caen, à Reims et d'autres endroits à venir pour le futur.
Très bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour rapidement, certes, mais on a fait le tour de la situation, si j'ose dire. Donc Mathieu Dussoulier, merci. On vous souhaite une bonne saison qui a déjà commencé. Et on va peut-être écouter un petit peu en lien avec le programme de musique américaine qui aura lieu au mois de juin, je crois, l'ouverture de Candide de Leonard Bernstein.
Thank you.
C'était l'ouverture de Candide de Leonard Bernstein qui dirigeait lui-même le London Symphony Orchestra.
RCN, Tempo Classique, Dominique Breda.
Eh bien voilà, Mathieu Dussoulier, cette émission est passée très vite. On vous re-souhaite une bonne année, une bonne saison, et puis on vous dit au hasard d'une rencontre à la salle Poirel ou ailleurs, et puis à l'année prochaine ou plus tard.
À l'année prochaine et bonne saison à tout le monde.
Quelques annonces pour terminer. Ce mercredi 9 octobre à 19h au lycée Loritz, un concert pour fêter les 180 ans du lycée. Concert lyrique avec deux jeunes élèves d'origine ukrainienne, Isa et Anna Sobolieva, qui travaillent toutes deux avec Robert Boschiero et qui seront accompagnés au piano par Luc Benoît. 19h, mercredi 9 octobre au lycée Loritz. Le samedi 12, au Centre culturel Henri Godel de Bayonne, il y a un ciné-concert autour du film Jeanne d'Arc de Dreyer. C'est à 20h avec au piano Frédéric Mougeot. La participation à ce concert est libre. Et puis le dimanche 13 octobre à 16h à l'église de Gerbévillers, un concert voix et orgue avec Philippe Brocard, qui est baryton, membre du chœur de l'armée française, et qui sera accompagné à l'orgue par Laurent Yocoum, qui est l'organiste de l'église Saint-Jean-Baptiste de Belleville, donc côté de Paris. Et puis donc un rappel, l'Opéra National de Lorraine, le jeudi 10 et le samedi 12 à 20h, les deux dernières représentations de la production de l'opéra intitulée « Héroïne ». Merci à Joris pour la technique, bonne semaine avec RCN et à mardi prochain.